C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Et pendant tous les mois, les mercredis du mois de février, dans le cadre de Campus Carrefour Chrétien, j'ai donné le cours qui s'appelait « Traverser la souffrance ». On était 10-12 personnes ensemble. Hein, et suite à ça, on m'a suggéré que ce serait bien d'en parler aussi le dimanche. Et donc, c'est ce que je fais ce matin. Hein, vous allez vivre un petit résumé de certains points qui ont été abordés pendant le cours. Pour les 12 personnes présentes, ben, ça va être un rappel. Pour les autres, peut-être ça va vous donner le goût de vous inscrire la prochaine fois que le cours va être donné, ou vous inscrire à un autre cours de campus. Levez la main si vous avez déjà vécu de la souffrance. Hein, souffrance physique, souffrance psychologique, souffrance émotionnelle, du deuil, des pertes, de la maladie. Bon, d'accord, tout le monde, ça s'implique, c'est pour vous ce matin. Hein, il n'y a personne qui n'a pas levé la main. On a tous... C'est une réalité pour tout le monde, la souffrance. Hein, pour les plus jeunes comme pour les plus vieux, pour les hommes comme les femmes, les incroyants comme les chrétiens, la souffrance, c'est une réalité qui nous affecte tous. Parfois, c'est de plus courte durée. Parfois, c'est quelque chose qui perdure puis qui s'arrête jamais, du moins dans cette vie. Puis la première chose qu'on veut faire quand on souffre, bien, c'est d'essayer de répondre à la première question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi exactement? Pourquoi? C'est la première question qu'on se pose tout le temps. Pourquoi ça m'arrive? Et ce matin, je vous donne un plan. On va essayer de répondre à cette question-là. Hein, on va se questionner pourquoi la souffrance existe, pourquoi Dieu permet que nous, les chrétiens, on souffre. Et après, on va aller dans quelque chose de plus pratique. Hein, on va aller dans une théologie pratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'où vient la souffrance? En Genèse 3, verset 14, tout de suite après que l'homme et la femme ont péché, ont désobéi à ce que Dieu leur avait donné comme commandement, et Dieu se révèle à eux, et voici ce que Dieu dit dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La Bible nous montre que ce qui est à l'origine de la souffrance dans le monde, c'est le péché. En Romains 3, 23 dit, en effet, le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Hein, la souffrance, c'est la conséquence du péché. Le péché est venu corrompre la création. Hein, ça dit dans le texte que la terre est maudite à cause de toi. Hein, le péché est venu briser les relations, briser les relations entre l'humain et Dieu, briser les relations entre l'humain et les autres êtres humains, briser les relations entre l'humain et la nature. Et donc, l'être humain souffre parce qu'il est affecté par le péché, parce que la nature dans laquelle il vit est corrompue, parce qu'il n'a plus accès à ce qui est parfait. Romains 5, 12, Paul écrit et dit, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Hein, » par ce péché originel, le péché, la mort, la souffrance sont entrés dans le monde et ont atteint chacun d'entre nous. Attention! La souffrance, c'est une conséquence du péché. Ce n'est pas nécessairement une punition en réponse au péché. Il y a une différence, je l'explique. Si je dis à mon fils, « Touche pas au feu. » On fait un beau feu dehors, on venait en camping. Je dis, « Faut pas que tu touches au feu. » Et qu'il touche quand même, il va se brûler. C'est une conséquence, parce qu'il n'a pas écouté. Ce n'est pas une punition de ma part. Il y a une différence entre les deux. C'est faux de croire qu'à chaque fois que je souffre, c'est Dieu qui est en train de me punir pour un péché que j'ai commis. Hein, je subis la conséquence du péché dans le monde, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de me punir à chaque fois. Et chaque personne qui souffre ne souffre pas nécessairement parce que Dieu est en train de la punir. Je ne peux pas voir les souffrances des autres et dire « Ah, il doit avoir des péchés dans sa vie. » Que chaque cataclysme, chaque tremblement de terre, chaque ouragan, c'est un jugement de Dieu sur une ville ou une nation à cause de ses péchés. Il y a plusieurs causes à notre souffrance. Hein? Mais ce qui est clair néanmoins, c'est que si la souffrance existe dans le monde, c'est à cause du péché. Mais allons plus loin dans notre question pourquoi. Hein? Pourquoi est-ce que moi je souffre? Quelles sont les conséquences de la souffrance dans ma vie? Mais il y a plusieurs choses. Hein? Premièrement, je l'ai nommé, mais je me répète, le péché originel. C'est important de toujours garder ça en tête. Le monde est déchu. Ça va causer de la souffrance. Il y a des choses qui se passent que parfois, c'est juste, bien, on ne vit pas dans un monde parfait. Hein? Si je me fais attaquer par un animal puis que je souffre après, bien, c'est parce que la nature est rendue contre moi. Le monde est plus parfait comme il devait être. Parfois, je souffre à cause de mon péché. Parfois, j'ai fait des mauvais choix, j'ai commis des péchés. Hein? Je mens à quelqu'un, il découvre, ça brise la relation. C'est mon péché qui fait ma cause de la souffrance. Je commets l'adultère et ça brise mon mariage. Bien, c'est mon péché qui fait que je souffre. Je tue quelqu'un puis je me retrouve en prison. Bien, c'est de ma faute. Parfois, c'est les conséquences de mes choix, sans que ce soit des péchés. Des fois, on fait des choix qui ne sont pas des péchés, mais que c'est quand même des mauvais choix qui me font souffrir. Hein, je choisis de quitter mon emploi, puis finalement, c'est une mauvaise situation économique, puis je ne trouve pas d'autre emploi pendant un certain temps, et pendant ce temps-là, je suis inquiet, je vis des difficultés financières. Je n'ai pas commis de péché, mais je souffre quand même à cause de mon choix. Je ne mange pas bien, je ne fais pas d'activité physique, ça affecte mon corps. Ça se peut que je souffre. Je roule trop vite et j'ai une amende. Le cerveau de la police, là, il aurait dû me laisser une chance. Moi, ma règle, c'est assume, là. Je déménage dans une nouvelle ville parce qu'il y a une opportunité et pendant un moment, je me sens seul. Hein, et puis la solitude, c'est une grosse souffrance. C'est moi qui ai choisi de déménager. Donc, si je souffre, ben là, il y a des moyens de régler ça, mais c'est entre autres à cause de moi. Si ça fait 5 ans que je suis dans la même église puis qu'il n'y a personne qui a connecté avec moi, ah, bien, il n'y a pas juste moi à questionner. Mais si j'arrive à quelque part de nouveau puis je vis de la solitude, c'est à cause de moi. C'est pas mauvais, mais ça se peut que je souffre pour un instant à cause de moi. Parfois, c'est les péchés des autres ou les choix des autres. Hein, on souffre à cause des conséquences que les autres ont, les choses que les autres ont faites. Les habitants du Moyen-Orient, en ce moment, qui souffrent à cause des choix de leurs dirigeants et des dirigeants du monde, ce n'est pas de leur faute à eux. Les parents qui souffrent à cause des choix de leurs enfants, ils souffrent à cause du choix des autres. Et vous pouvez penser à plein d'exemples personnels. Parfois, on souffre à cause de la perte, du deuil. Hein, perdre un être cher, vivre un deuil, ça fait mal. C'est souffrant, ça apporte plein de questionnements. Ce n'est pas toujours relié à des choix ou à des péchés. Quelqu'un qui meurt de vieillesse, c'est triste quand même. On souffre. Parfois, la souffrance vient comme une douleur que j'appelle préventive. Hein? C'est un moyen de me dire que quelque chose ne va pas, qu'il faut que je change quelque chose. Hein? J'ai mal au dos parce que j'ai toujours une mauvaise posture. C'est mon corps qui me dit « change de quoi ». Toutes mes relations vont mal parce que je manque de tact et de douceur. C'est ma vie qui est en train de dire, « Oh, il faut que tu changes quelque chose. » Parfois, on souffre à cause d'empathie. L'être humain est un être d'empathie. Hein? On vit la souffrance avec les autres. Quand quelqu'un d'autre souffre, nous souffrons aussi parfois. Hein? Un de nos proches, un de nos amis, un membre de l'Église souffre, on en éprouve la peine pour eux. On entend un drame arriver aux nouvelles, on fait comme, « Oh, c'est tellement triste, ça nous touche, ça nous affecte. » La Bible dit, 1 Corinthiens 12, verset 26, dit, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Hein? On a été créés avec de l'empathie. Et ça fait que parfois, on souffre. On pourrait continuer encore longtemps. On pourrait parler de persécution. On pourrait parler comment résister à la tentation. C'est souffrant, c'est dur. Les attaques de l'ennemi peuvent nous faire souffrir. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire souffrir. Il y a beaucoup de causes à notre souffrance. Eh bien, souvent, c'est plusieurs choses mises ensemble. Puis souvent, on ne réussit pas à comprendre pourquoi on souffre. On ne le trouve pas. On n'a pas la réponse à notre pourquoi. Mais allons encore plus loin dans notre réflexion sur le pourquoi. On a établi la souffrance trouve son origine dans le péché. Et donc, on comprend que les non-chrétiens souffrent. Ils vivent dans le péché, c'est normal. Ils ne sont pas repentis, eux, de leur péché. Ils n'ont pas reçu le pardon de Jésus-Christ à la croix. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent encore, alors? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse souffrir alors qu'on lui dit, « Seigneur, on reçoit ton pardon, on te donne notre vie. » Tout d'abord, il faut comprendre que si on veut que le mal et la souffrance disparaissent de la terre, si on veut qu'il n'y ait plus de souffrance sur la terre, bien, il faudrait que le mal et le péché disparaissent totalement de la terre. C'est ce qui va arriver au jugement dernier. Et si Dieu avait choisi de descendre avec puissance et dire « Je vais éliminer tout le mal, tout le péché de la terre », on ne serait plus là. Plus personne. On est tous profondément pécheurs. Et si Dieu avait choisi de juste « Je finis la souffrance, je l'élimine », bien, ils nous auraient tous éliminés. Parce que le péché est enraciné en nous. C'est une des questions quand on dit, pourquoi Dieu laisse la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Parce que c'est nous qui sommes à l'origine de toute cette souffrance-là. Mais parce que Dieu nous aime, il a choisi d'être patient. 2 Pierre 3:9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu est patient. Il tarde le jugement. En fait, plus que ça, Dieu choisit de lui-même passer par la souffrance. Lui-même de vivre la conséquence de notre péché afin qu'on puisse recevoir le pardon et devenir une nouvelle créature. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est Dieu, tout-puissant, tout souverain, qui au lieu de juste dire « j'élimine le péché », dit « je vais payer le prix du péché pour eux. Je vais souffrir pour eux. » Donc, si la souffrance est encore dans le monde, c'est entre autres parce que Dieu nous aime et désire que nous puissions croire en l'œuvre de Christ à la croix et recevoir son pardon et la vie éternelle. Comme Paul le décrit dans Romains 7, si ça vous intéresse, Romains 7, en attendant d'être pleinement glorifié au ciel, mais encore en nous une partie de l'être humain déchu, une partie de nous qui est affectée par les conséquences du péché. Et présentement, Dieu choisit non d'enlever totalement la souffrance, mais plutôt de l'utiliser, d'en faire quelque chose qui nous transforme. Ce n'est pas Dieu qui cause la souffrance, c'est notre péché. C'est ça qu'on a dit au début, la conséquence du péché, c'est la souffrance, c'est la mort. Mais Dieu choisit d'utiliser cette chose mauvaise pour en faire du bien dans nos vies, pour nous transformer. La souffrance de Jésus, sa mort à la croix, c'était quelque chose d'horrible, quelque chose de tragique. C'est le pire crime. On a pris la personne la plus innocente et on l'a tuée. Et Dieu en a fait quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Le salut pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu a pris ce qui semblait être une défaite horrible et en a fait une victoire extraordinaire. Et c'est ça que Dieu fait. Et c'est ça que Dieu fait aussi avec la souffrance. Dieu prend la souffrance et il en fait quelque chose de bon dans nos vies. Ce n'est pas la souffrance qui est bonne, mais c'est parfois le résultat que ça peut faire dans nos vies. Dieu prend la conséquence du péché dans le monde et dans nos vies et en fait un moyen de nous transformer, de nous rendre meilleurs, de bénir les autres. À travers la souffrance, Dieu se glorifie dans nos vies. 2 Corinthiens 4:17 dit, « En effet, nos légères difficultés du moment présent entre guillemets, hein, parce que quand on la vit, c'est pas léger, puis ça n'a pas l'air court, mais produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 1 Pierre 1, 6 et 7, Paul écrit, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps, encore en guillemets, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais quand on souffre, les priorités reviennent à leur place. Quand on souffre, l'essentiel est mis au centre. On reconnaît, « Oh, j'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas capable par moi-même. J'ai atteint mes limites. » On reconnaît qu'il doit être premier dans nos vies. On démontre qu'on a confiance en lui. Et Dieu se révèle au travers de nous. Que ce soit par la fin de la souffrance ou par la force de traverser, de passer au travers, Dieu démontre qu'il agit. Dieu démontre sa puissance. Et quand on reconnaît que c'est lui qui agit, que c'est grâce à lui qu'on passe au travers de la souffrance, bien on lui donne la gloire. Et sa gloire se manifeste, sa gloire se révèle. On devient un témoignage pour les autres. Dieu démontre sa gloire alors qu'on lui fait confiance. Parce qu'on replace les choses à leur place. Dieu utilise aussi la souffrance pour notre croissance, notre transformation. Romains 5, 1 à 5. « Dit ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit de la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La détresse produit quelque chose. Hein, Dieu utilise la souffrance pour nous faire grandir, pour nous entraîner. Hein, l'hébreu va parler de discipliner, d'un gymnasio. L'idée d'un gymnase, on s'entraîne pour nous former, nous transformer. Dans la souffrance, les priorités sont rétablies. Nos faiblesses, nos défauts sont révélés. Hein, c'est quand on souffre que là, le vrai nous ressort. Là. On n'est pas le dimanche matin tout calme, tout patient. Non, non! Oh, l'impatience, elle sort! Notre langage n'est plus le même. Ça va pas bien. Non, mais c'est ça, c'est le vrai toi qui sort. Et là, oh, on réalise qui on est et Dieu nous parle. C.S. Lewis disait, Dieu murmure dans notre prospérité, mais il crie dans notre adversité. Malheureusement, on entend beaucoup plus Dieu quand c'est difficile, quand on réalise j'ai vraiment besoin de lui. Hein, la souffrance, c'est un test de notre connexion avec Dieu. Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Hein, c'est la question de Job. Pourquoi est-ce qu'il te sert? Pourquoi est-ce qu'il t'obéit? À cause de toutes les récompenses, puis les bénédictions, puis les bonnes choses? Ou parce que s'il est Dieu, puis il mérite toute la gloire. À toute souffrance, ce n'est pas la conséquence de nos fautes, de nos choix à nous. On l'a mentionné plus tôt. Parfois, la souffrance vient à cause d'autres choses. Cependant, toute souffrance, c'est l'occasion de grandir spirituellement et en sagesse, de s'enraciner en Dieu. Parfois, la souffrance vient pour être une bénédiction future. Je prends l'exemple de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, ou si vous ne la connaissez pas, dans Genèse, la fin du livre de Genèse, Joseph, le frère préféré, pas un bon père qui dit « lui, c'est mon préféré, puis pas les autres ». Il y a des frères jaloux, puis lui est un peu vantard, hein, « je suis le préféré, vous allez tous vous agenouiller devant moi un jour ». Ce n'est pas une bonne famille. Ses frères réagissent avec colère, Au début, ils veulent le tuer. Finalement, ils le vendent comme esclave. Il s'en va en Égypte. Il est un bon esclave. Finalement, la femme du propriétaire, elle tombe amoureuse de lui. Lui, il dit, non, je ne ferai pas une telle chose. Il se fait mettre en prison. Puis, il passe 7 ans en prison. À juste dire, pourquoi ça m'arrive? Mais continue à garder foi en Dieu. On le voit dans ses comportements. Et finalement, il devient... il devient grand vizir numéro 2 d'Égypte. Ses frères reviennent, il leur donne la nourriture. Il finit par tous les pardonner et les sauver d'une famine horrible. Et dans Genèse 50, au verset 20, Joseph est capable de dire, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu prend le mal qu'ils ont fait et en fait quelque chose de bien. Puis tout au long de ce qu'il a vécu, Joseph ne comprend rien de ce qui se passe. Il souffre, il crie à Dieu, mais il ne voit pas Dieu répondre. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu n'a pas causé la souffrance de Joseph. Mais Dieu va utiliser même les mauvaises actions de ses frères pour en faire du bien. Pour être une bénédiction pour tout le peuple, même les frères. Des fois, on ne sait pas comment notre souffrance va un jour être une bénédiction pour d'autres. Comment on va pouvoir être un encouragement pour dire, « Hey, on peut passer à travers. Hey, je comprends. Plus que personne. Hey, je suis là. » Puis accompagner d'autres gens qui souffrent. Puis parfois, souvent même, on ne saura pas pourquoi on souffre. Joseph l'a découvert après plusieurs années, mais Job ne l'a jamais découvert. Puis il y a plein de gens, parfois, nous, on ne le découvre pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vis ça? Puis on ne le saura pas. On va le découvrir au ciel, peut-être. Et c'est là qu'on doit continuer de faire confiance à Dieu. Hein, croire qu'il est souverain, croire qu'il est en contrôle de toutes choses, croire qu'il est bon et qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonne pas dans notre souffrance. Romains 8, 28 dit, « Nous savons en tout, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Ça, c'est une promesse à maintenir. « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu vas en faire quelque chose de bon dans ma vie, que tu vas me transformer à travers ça. » En des siècles après Joseph, il y a un autre qui est venu puis qui a été rejeté par les siens, vendu pour des pièces d'argent, qui a été renié et trahi par ses frères, injustement enchaîné et condamné à mort. Un autre qui a également prié, demandant à son père d'être délivré de cette coupe de souffrance et de mort, mais qui a reconnu que c'est la coupe du Père, une partie de son bon plan. C'est Jésus. Jésus qui est mort pour ses ennemis, leur pardonnant alors qu'il était sur la croix, parce qu'il savait que le plan d'amour rédempteur du Père était derrière tout ça. Ses ennemis voulaient lui faire du mal, mais Dieu le fait concourir au bien de l'humanité. Et maintenant, Jésus règne à la droite de Dieu. Face à vos difficultés, regardez à la croix. À ce que Jésus a fait face à ses souffrances, tellement plus grandes que les nôtres. Et au bout du compte, le pourquoi de nos souffrances n'est pas toujours répondu. Il n'est pas toujours clair. Et même s'il est clair, même si on est conscient de la cause ou de la raison de notre souffrance, bien, ça ne diminue pas la souffrance. J'ai beau savoir que, oh, un jour je serai une bénédiction pour plein de gens, en ce moment ça fait mal pareil. J'ai beau savoir, Dieu veut me transformer avec ça, d'accord, mais en ce moment je souffre quand même. Comprendre le pourquoi ne va pas nécessairement diminuer ou arrêter la souffrance. Ça reste une question nécessaire à se poser, parce que parfois c'est nécessaire pour avancer. Si je souffre à cause d'un péché dans ma vie, il faut que je le réalise. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement pourquoi, mais c'est plutôt quoi. Quoi faire dans ma souffrance? Et la Bible présente différentes choses à faire quand on souffre. Et ce n'est pas des choses à faire une après l'autre. Ce n'est pas une recette, tu fais ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça. C'est plein de choses à faire en même temps. En même temps qu'il faut continuer à avancer, il faut accepter de pleurer, puis il faut accepter de faire confiance, puis il faut continuer à prier. Puis il y a plein de choses que la Bible nous dit, faites tout ça en même temps. Alors qu'on traverse la souffrance. Ouais, ce matin, on va regarder quelques-unes. Certaines des choses que Dieu, la Bible nous encourage à faire alors qu'on vit des moments de souffrance. Premièrement, il faut marcher. Une des principales métaphores qu'on trouve dans la Bible pour affronter le malheur, c'est de marcher. Marcher au travers de quelque chose de difficile, de quelque chose de périlleux et peut-être fatal. Hein, le psaume 23, verset 4 dit, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Je marche. Lamentation 3:2 dit, « Il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. » Ésaïe 43, versets 2 et 3, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Verset 5, « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. » La souffrance, c'est quelque chose qui doit être traversé, au travers de laquelle il faut marcher. Hein, les philosophes anciens voyaient l'adversité comme quelque chose qu'il faut endurer, supporter sans broncher, sans même à la limite le ressentir. Accepte ta souffrance, ne réagis pas, puis dans une autre vie ou plus tard, ça va être mieux. Tu vas avoir des bénédictions parce que tu as supporté la souffrance. Les Occidentaux voient la souffrance comme une tempête, une mauvaise température, quelque chose qu'on évite, où on s'isole jusqu'à ce que ce soit passé. Hein, quelque chose qu'on éteint, on éteint la souffrance, on se divertit de plein d'autres manières, il ne faut pas souffrir. On fait tout pour ne pas le ressentir. La foi chrétienne apporte un équilibre qu'on peut voir dans les métaphores de la marche. On passe au travers de la souffrance, mais on ne reste pas là. On ne dit pas, ben c'est ça la souffrance, puis on attend. Puis on n'est pas à côté, ah, je vais tout faire pour l'éviter. Non, la souffrance, elle est là, mais on passe au travers. Quand tu marcheras dans le feu, quand tu traverseras les fleuves, on ne perd pas pied en laissant la souffrance nous détruire. Mais on ne pense pas qu'on peut simplement l'éviter ou être imperméable à la souffrance. 1 Pierre 1, 6 et 7. Voici ce qui fait votre joie, et on le lut tantôt, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Et Pierre continue dans la même lettre, au chapitre 4, verset 12. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriviez quelque chose d'anormal. » Il dit, vous allez passer au travers, soyez pas surpris. Et au chapitre 5, verset 10, Pierre écrit et dit, « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Tout au long de l'épître, de Pierre, 1er Pierre, Pierre fait réaliser l'importance, la réalité de la souffrance, mais dit Dieu va vous rétablir, Dieu va vous rendre fort. On doit reconnaître Dieu, dépendre de lui, parler avec Dieu, croire en Dieu alors qu'on est dans le feu. En Ésaïe 43, Dieu dit qu'il va être lui-même avec nous, marchant dans le feu. Le connaître personnellement dans nos épreuves, c'est la clé pour devenir plus fort alors que plutôt que plus faible dans ces épreuves. Si vous croyez en Jésus, que vous appuyez sur lui, alors la souffrance va agir sur votre caractère comme le feu agit sur l'or et le purifie, le rend meilleur. Vous voulez savoir qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses? Vous voulez donner une personne remplie de compassion pour ceux qui souffrent? Vous voulez avoir une telle confiance en Dieu que vous êtes fortifié contre les déceptions de la vie? Voulez-vous juste être plus sage? Mais c'est impossible de savoir qui vous êtes vraiment à moins d'être testé. C'est impossible de vraiment avoir de l'empathie ou de la sympathie pour les autres qui souffrent à moins d'avoir souffert soi-même. Il n'y a aucune manière de vraiment apprendre à faire confiance à Dieu à moins d'avoir été dans les eaux profondes ou que là, Dieu se révèle à nous. Marcher. Marcher, c'est quelque chose, c'est plus spectaculaire. Hein? Ce n'est pas impressionnant, marcher. Un pas à la fois. Dieu ne dit pas, fais des pirouettes. Sprint. C'est des actions constantes et répétitives que vous continuez à faire de façon soutenue pendant une longue période de temps. Marcher avec Dieu, c'est prier jour après jour. C'est lire sa Bible jour après jour. C'est obéir jour après jour. C'est partager avec des chrétiens jour après jour. C'est adorer ensemble jour après jour. C'est participer à la vie de l'Église locale jour après jour. Hein, c'est rythmique encore et encore et encore. C'est une belle métaphore pour un progrès lent et constant, mais qui avance. On ne reste pas sur place. Et ça veut dire que souvent, ça implique qu'on ne sort pas automatiquement de la souffrance. Hein? Ce n'est pas une délivrance instantanée de vos questionnements, de votre tristesse, de vos peurs. Il y a des moments où Dieu le fait, « Yes, Seigneur! » Mais Dieu dit aussi, en attendant, « Marche, avance, continue. » Il y a des moments où vous allez avoir une paix qui dépasse toute compréhension, de manière surprenante et inexplicable. Il y a des jours où une révélation arrive comme un rayon de lumière dans la noirceur. Il y a des progrès. Mais en général, quand on marche, c'est un progrès lent et constant qui arrive seulement si on continue à faire des activités régulières et quotidiennes de la marche avec Dieu. Marcher. Deuxièmement, et on va aller vite, pleurer. La Bible est remplie de pleurs, de lamentations, de tristesse. Il y a des psaumes qui sont appelés les psaumes de lamentation. Des cris poignants de détresse et de chagrin. Souvent, le psalmiste se plaint des actions des autres, il est troublé par ses propres pensées, ses propres actions. Des fois, c'est même des frustrations envers Dieu. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? On peut penser au livre de Job, aux lamentations de Jérémie. Hein, Jérémie 15, 18. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Jérémie souffre. Et plusieurs chrétiens, par peur de douter de l'amour de Dieu, ont minimisé le bien fondé des pleurs, des lamentations, d'exprimer notre tristesse. Hein, les chrétiens, on est souvent enseignés à ne pas pleurer, mais à montrer notre foi en Dieu en acceptant sa volonté avec joie et sans broncher. Hein, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Puis là, on souffre, on est dans le deuil. « Non, 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 tout va bien. Ha, ha, Seigneur est bon. » C'est vrai que le Seigneur est bon. Mais Jérémie pleure. Les psalmistes pleurent. Jésus pleure. Et c'est dans la Bible. La Bible, c'est rempli de gens qui pleurent. Et si Dieu a choisi de laisser ses textes dans les Écritures, c'est parce que c'est bon, c'est nécessaire, c'est essentiel. Pleurer fait partie des choses à faire quand on souffre. Hein, puis je ne parle pas juste de pleurer avec des larmes, là, mais d'exprimer sa tristesse. C'est pas correct de dire à quelqu'un qui est dans le deuil, dans la tristesse, hey, « Reprends-toi en main, là. Relève-toi, ça va aller. » On doit être doux et patient avec eux. Et ça veut dire aussi être doux et patient avec nous-mêmes. Faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire ne jamais pleurer, ne jamais ressentir de colère, ne pas se sentir sans espoir. Matthieu 12, 20, il parle de Jésus, il dit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la vérité, la justice. » Ça parle d'une blessure intérieure ici. Jésus voit l'intérieur du cœur, il sait quoi faire, puis il ne brise pas, il n'est pas brusque, il est doux. Psaume 147, 3 dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. » Quand vous êtes dans la souffrance, permettez-vous de vivre vos émotions. De les vivre pleinement, mais d'une manière appropriée. C'est-à-dire en parlant à la bonne personne. C'est-à-dire en parlant à Dieu. C'est l'exemple de Job. Job exprime toute sa colère, mais il dit à Dieu. Et la Bible dit que Job, en tout ça, n'a jamais péché. Parce qu'il parle à Dieu, il exprime ce qu'il vit. Quand on souffre, la Bible nous encourage aussi à prier. En Philippiens 4:6, ne vous mettez en souci pour rien. Ne restez pas dans le souci, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Jacques 5:13, Jacques écrit, « L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. » Quand Jésus, dans Gethsémané, il va prier, il va se tourner à Dieu, il dit, « Seigneur, je suis accablé de tristesse. Seigneur, je ne veux pas passer par ça, mais que ta volonté soit faite. » Allez à Dieu, priez, même si c'est aride. Lisez les Écritures, même si vous êtes dans l'agonie et c'est difficile. Éventuellement, vous allez ressentir à nouveau. La noirceur ne dure pas pour toujours. Mais continuez à vous approcher de Dieu. Psaume 42, verset 6 dit, « Pourquoi est abattue mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et si vous lisez le psaume 42, vous voyez, il exprime ses émotions, il est dans la souffrance, il dit. Mais à la fin, il dit, non, je vais continuer à espérer en Dieu. Et c'est notre dernier point, continuer à espérer. Apocalypse 21, 1 à 4 dit, « Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Ils essuiera toute l'âme de leurs yeux. » La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Il n'y a rien de plus pratique que de l'espoir. Jean écrit à des individus qui souffrent des choses terribles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne l'espoir ultime. Si vous croyez en Jésus, qui a pris ce que nous méritions afin qu'on puisse avoir le ciel et la gloire qu'il mérite, mais cet espoir, il est pour vous. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Oui, de l'espoir de voir Dieu agir maintenant miraculeusement dans nos vies. Dieu est tout-puissant, il peut guérir, il peut restaurer, et souvent il le fait. Mais pas toujours. Et dans ces cas, dans tous les cas, à moins que Jésus ne revienne avant, on va tous faire face à la mort. Éventuellement, la maladie a le dessus sur nos corps humains. Mais ce n'est pas la fin. C'est seulement la fin des souffrances. C'est le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Un jour, on va retrouver tous ceux qu'on a perdus. Un jour, nos souffrances physiques ne seront plus. Un jour, nos souffrances émotionnelles ne seront plus. Notre tristesse, notre solitude, nos craintes, tout ça a une fin. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Plus de pleurs, plus de plaintes, plus de deuil, plus de souffrances. Et ça, c'est quelque chose à méditer à chaque jour. Et je vais inviter l'équipe de louange. On aurait pu continuer de parler de plein d'autres choses, puis d'aller encore plus dans le détail. Je vous dis, je vous fais un court, bref, aperçu d'un cours de 4 mercredis, de 45 pages de notes. On aurait pu parler de l'importance de faire confiance, l'importance de penser à des bonnes choses, d'aimer les bonnes choses, de remercier Dieu. On aurait pu réfléchir à la souveraineté de Dieu, mais qui a choisi de vivre la souffrance pour nous. On aurait pu regarder comment Paul vit la souffrance et qu'est-ce qu'il en dit. Si ça vous intéresse, c'est toutes des choses qui sont dans le cours, traverser la souffrance. Mais ce matin, je vais terminer avec ce texte des Écritures qu'on a lu plus tôt. Ésaïe 43, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas consumé. Ça va être chaud, mais tu vas passer au travers. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Alors qu'on traverse la souffrance, l'essentiel, c'est de se rappeler que Dieu est avec nous. Que Dieu marche avec nous. Qu'il ne nous abandonne jamais. Il nous donne la force d'avancer. Il nous restaure avec douceur, avec amour. Même si je ne comprends pas tout, je vais continuer d'espérer en l'Éternel. Je vais continuer de lui faire confiance. Parce que si Dieu lui-même a choisi de souffrir pour moi à la croix, si lui ne m'a pas abandonné dans ses plus grandes souffrances, mais je sais qu'il ne va pas m'abandonner dans ma souffrance. Je sais que je peux venir à lui. Je peux lui exprimer ma douleur, lui demander son aide et qu'il sera avec moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Père éternel, on vient devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, on a entendu. C'est dans notre esprit, Seigneur, mais je te prie que ça puisse descendre dans notre cœur ce matin. Saint-Esprit, je te prie pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous montrer à quel point tu es là avec nous, Seigneur Dieu. Tu es là dans le feu, que tu te tiens avec nous, Seigneur, comme tu t'es tenu avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, Seigneur Dieu. Que tu marches à nos côtés, Seigneur Dieu, alors qu'on traverse, alors qu'on continue, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous la force d'avancer. Donne-nous la force de continuer à prier, de continuer à s'approcher de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que tu entends nos pleurs, Seigneur. Tu entends notre tristesse, Seigneur, et tu la jettes pas de côté, Seigneur, mais tu nous accueilles. Tu nous prends dans tes bras, tu nous consoles, oh Dieu. Merci pour l'espoir que tu nous donnes, qu'un jour, il y aura une fin à toute cette souffrance, Seigneur Dieu. Seigneur, en attendant, on veut continuer à te faire confiance. On veut continuer à te laisser agir à travers la souffrance dans nos vies, Seigneur Dieu. À devenir des gens toujours plus proches de toi. Transformés par ton esprit, Jésus. Oui, Seigneur, révèle-toi à nous ce matin, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.